Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers amis et belle rentrée. Bonjour Bernard Valero.
Bonjour Myriam.
Une actu formidable puisque au mois de juin, on a vu ici et là paraître, entre autres au Centre Pompidou, la monographie de l'agence Valero Gadan. Tu peux nous en parler un peu ?
Ben, effectivement, on a été très contents de pouvoir proposer un livre qui retrace à peu près une trentaine d'années de notre travail avec Frédéric. C'était aussi une manière de présenter aussi nos nouveaux associés qui sont quatre. C'est un peu un nouveau départ, enfin j'espère. C'était aussi une manière de revenir en arrière sur cette carrière et puis de voir en fait tous ces projets. Quand je l'ai présenté, j'ai pensé à Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, qui, quand il avait remixé tous les morceaux de Led Zepp, s'était rendu compte à quel point les gens qui avaient travaillé avec lui, donc John Bonham, le batteur, et John Paul Jones, étaient importants. Et quand on fait un bouquin d'archi, ça nous permet de faire un arrêt sur image et puis de retracer tous ces projets et de repenser aux gens qui ont travaillé avec nous et leur côté absolument fondamental et essentiel, parce qu'on ne fait pas ça tout seul, on est une équipe. Et c'est une manière, quand on fait une monographie, de repenser à tous ces petits détails et tous ces projets qui auraient pu se faire, qui ne se sont pas faits, ou d'autres qui étaient...
Alors justement, est-ce que tu as des regrets ? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels
un seul,
par exemple, donne-moi un exemple, un vrai gros regret.
Un vrai gros regret, c'est le projet dans Paris sur Réinventer Paris, le M5A2 qu'on a perdu, qui est un bâtiment que je trouve très beau, et voilà, bon, c'est aussi notre lot quotidien, parce que quand on est architecte,
on sait perdre,
on fait des concours. Ce qui est dommage, c'est de voir toute cette matière grise qui part à la poubelle, puisqu'on ne réutilise pas les projets. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, on ne les travestit pas.
Ils sont uniques
à chaque fois, dans le contexte. Et donc il y a des projets comme ça qui sont dans la monographie et on a voulu absolument montrer ces projets d'abord par leur taille qui sont essentielles, mais aussi parce que c'était une écriture différente, c'était des recherches différentes sur la pérennité,
On va pouvoir, dans cette monographie, regarder les 30 ans et découvrir qu'il y a vraiment à la fois des similitudes et des vraies grosses différences.
Exactement, on va voir cette évolution, on va voir aussi, on va éviter de dire qu'il y a 30 ans parce que sinon on prend un vrai coup de vieux, parce que c'est vrai que quand on regarde de 92 jusqu'à maintenant, ça fait pas tout à fait 30 ans, mais depuis la mairie de Arnes, qui est notre premier bébé, qui est le projet totalement destiné à la main intégralement, où on avait eu une mention de la première œuvre, où on sortait de l'école et on est pur moderno, blanc et autres. Jusqu'à maintenant, il y a une réelle évolution et c'est ça qui est intéressant à voir et à retracer.
Alors, avant de parler de l'actu et des projets de la métropole, je voulais avoir ton avis un petit peu sur cet article d'Edelman dans Le Monde sur l'agriculture urbaine et la choucroute qui pilule sur les projets d'archi.
Ah bah, je suis tombé dessus avec délice parce que bon, je suis un lecteur assidu du journal comme du Monde et c'est vrai que je l'ai forwardé à des centaines de personnes parce que je trouve qu'il a tapé exactement comme il fallait, il a dit les choses justes. C'est vrai que, bon, moi j'appelle ça du travestissement, c'est pas du tout de pas en mettre, de la végétalisation, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'à un moment donné, c'est aussi...
Il faut pas que ça cache la matière.
Voilà, et puis fondamentalement, un bâtiment, ça doit être dessiné, et on doit pas forcément mettre dessus une peau intégrale en se disant, bah, on met une seule fenêtre et la végétation va faire la blague, quoi.
Oui, mais c'est un peu un effet de mode en ce moment entre les bâtiments connectés, les bâtiments multifonctions, les bâtiments dans une rigueur absolue, type mimétisme avec les tours et les barres qu'on est en train de démolir ou qu'on a commencé à démolir il y a 20 ans.
C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que dans un cas, ça peut être de la végète qui devient, comment dirais-je, du camouflage. Et puis dans un autre cas, ça peut être une espèce de simplicité apparente, mais c'est le même travers, c'est-à-dire que enfin, pour moi, je comprends pas. Ça peut être très bien et radical et très bien dessiné parce qu'il y a des architectes rationalos qui font ça très très bien. Il n'y a pas de problème. Après, il faut pas que ça devienne simplement.
Mais est-ce qu'il y a le lieu de la radicalité ? Est-ce que justement on peut se permettre de faire du radical dans Paris intramuros parce qu'il y a un côté, possible ?
Ah ben moi,
là, on est face à l'opéra, donc on se dit que la choucroute, elle a du bon. Mais enfin bon, en tout cas le décor, l'ornement était un crime comme disait l'autre. Mais est-ce que justement en banlieue, dans nos banlieues, on a le droit ou pas de faire du radicalisme?
Ah, mais moi, je pense qu'on a tous les droits. Moi, je viens d'une barre, j'habite dans une barre, donc j'ai pas de problème avec ça. Ça me dérange absolument pas. C'est la manière de le faire, et c'est aussi la philosophie. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait ça parce qu'on sait pas faire autre chose, ou est-ce qu'on fait ça parce que c'est le lieu de le faire? C'est totalement différent. On peut très bien faire un bâtiment radical et magnifique, et puis on peut faire aussi un bâtiment radical qui montre simplement la pauvreté de l'exécution.
Oui, alors après, le problème de l'espace extérieur dans le logement, c'est une vraie question, parce que l'espace extérieur n'est pas obligatoirement utilisé dans l'usage du logement.
En fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner toujours un espace extérieur, parce que les logements devenant si petits, on a toujours cherché à faire des espèces de loggia plutôt que des balcons, comme des pièces ouverte mais presque fermée, il manque plus qu'un bout de façade en fait. Alors ça veut pas dire qu'on va mettre le lit, le canapé ou l'armoire normande sur le balcon, mais ça veut dire qu'on a un prolongement de l'espace intérieur qui est déjà minimum, surtout en accession, parce que les gens achètent en fonction de leurs moyens, et donc on vend plutôt de la surface que des pièces, et donc on propose cet espace extérieur comme étant un complément,
un prolongement de l'espace de vie.
Après, l'usage qu'en font les gens, on peut pas faire la police partout, et on essaye d'avoir des astuces. On essaye d'avoir des astuces, parce qu'en fait on nous reproche après d'avoir des façades qui sont délabrées parce que les gens mettent n'importe quoi dessus, mais c'est leur vie, c'est leur quotidien. Donc on essaye de trouver des astuces pour camoufler tout ça, quoi.
Alors justement, c'est quoi l'enjeu de demain sur le logement et sur les projets que vous allez faire, vous êtes en train de faire en ce moment en concours? Est-ce que tu as l'impression que tu fais une écriture différente? Est-ce que tu... Il y a d'autres questions qui se posent aujourd'hui sur le logement?
Ce qu'on essaie de faire, c'est d'achat, donner de la qualité dans le fonctionnement du logement, parce que on vient d'une école en architecture où le logement c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je pense que c'est l'exercice le plus dur, le logement, contrairement à ce que les gens pensent, parce que c'est une manipulation permanente des pièces et que c'est quelque chose de très compliqué à faire. Donc il faut absolument donner une qualité à l'intérieur de ces espaces qui soit digne, en sachant que les surfaces ont été largement réduites aujourd'hui et qu'on essaie de faire des choses qui ne soient pas rédhibitoires. Toutes les pièces sont éclairées, c'est un minimum. Même les cuisines, parce que les surfaces étant si petites, on a l'impression que la cuisine est toujours en fond de couloir. Donc on essaie de redonner cette qualité qu'avaient les logements sociaux des années 60, contrairement à ce qu'on pense. Et on essaie de retrouver...
Avec une amélioration de l'acoustique et de l'isolation thermique.
Exactement, mais on essaie de garder, nous, ce qu'on pense, parce qu'on vient de banlieue et qu'on vient des bars, que l'orientation est-ouest reste la plus fondamentale, parce que quand on travaille, on se lève le matin avec le soleil, et quand on rentre le soir de son boulot, on voit ses enfants et il fait encore du soleil. Quand c'est nord-sud, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on voit jamais le soleil, quoi. Parce que quand on bosse, on n'a pas vu le soleil le matin, et quand on rentre, il est caché. C'est pour ça que les bars des années 60 étaient est-ouest.
Donc vous avez, je pense, répondu à certains dossiers sur la métropole du Grand Paris. Tu peux nous en dire, même s'il y a les oraux qui se profilent le mois prochain.
C'est pas grave. Ouais, on a répondu à trois métropoles, notamment une qui est très très bien. Enfin, les trois sont très bien, mais d'abord je remercie les acteurs qui nous ont appelés sur ces métropoles, parce que l'enjeu des architectes, c'est de trouver aussi des compagnons pour partir sur ces sujets. Donc il y en a un avec Link City à Villejuif, à Vitry, sur la Zac Chariou, qui est un très beau projet qu'on fait en association avec Mioto et Brenac et Gonzalez, qui s'est remarquablement bien passé, surtout une entente parfaite avec les acteurs, ce qui était assez impressionnant. Y compris chez Link City, on avait vraiment des moteurs, des boosters pour travailler. On a fait un projet avec Richesse sur Marne Europe, qui est un projet
avec Thomas, avec très
très compliqué, parce que beaucoup d'intervenants, beaucoup d'intervenants avec Bouffon Marignan et puis BNP et Duval, et puis le dernier qui me tient vraiment à cœur parce que ça parle de la déportation et que ça me touche, c'est le bâtiment du Fort des Lilas, en fait, qui est à Romainville. Je ne savais même pas que ça avait existé, où ont été déportées 9000 personnes, dont 6000 femmes, et pratiquement personne n'est revenu. Et quand on va là-bas, on prend 5 minutes en métro pour y aller, et on se rend compte qu'en fin de compte, les gens ont été incarcérés à 5 minutes de Paris, quoi.
Et c'est sur la commune de Romainville ?
C'est sur les deux. C'est là, la base de la tour de TDF.
Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, je vois.
Et donc, c'est un projet très intéressant qui nous a fait travailler sur la mémoire du lieu, sur la déportation. Et là, on est avec Next City et avec Christian Marina. On a très bien matché aussi ensemble. C'est un projet compliqué parce qu'on a été aussi un peu radical. On a rasé certaines choses pour mettre mettre en évidence les lieux essentiels de la déportation et de l'emprisonnement de ces femmes. Donc bon, il y a des bâtiments qui sont partis, mais on a travaillé la mémoire différemment, on a décollé les bâtiments du sol.
Mais c'était pas le seul programme, donc ça c'est la partie plutôt un peu mémoire. Géographie. Mmh. Il y avait des logements.
Alors sur le site même, on pouvait pas faire de logement, donc il y a des résidences étudiantes et du coworking. Donc on a fait des tours en élévation qui ne touchent pas le sol, justement pour préserver cette espèce de niveau zéro.
Pour avoir un décollement.
Voilà, et de voir au fond toutes ces casemates où elles ont été incarcérées et torturées. Et puis en bas, en contrebas, on a du logement en accession parce que bon, c'est le nerf de la guerre, il faut arriver à financer les opérations. Mais ce sujet est très très beau. C'est vraiment un sujet magnifique.
Bon, on a hâte déjà de le découvrir et puis on croise les doigts pour que sur ces trois dossiers,
il y en a au moins un qui passe.
Ou au moins, peut-être plus.
Peut-être plus, voilà.
C'est quoi l'actualité dans les 10 ans à venir de l'agence? Comment tu vois, justement, tu parlais d'associés, donc je n'étais pas au courant, tu m'en parles un peu plus?
Ben, en fait, on a décidé d'avoir des personnes avec nous qui sont là depuis longtemps. Bon, il y a Nathalie Diebold, il y a Mani Chancelli, Jérémy Boutet et Françoise Grably qui sont un peu des fers de lance et des moteurs.
C'est formidable, je vais déjà les féliciter.
Voilà, et on va essayer de bosser avec eux, de redynamiser l'agence, de lui redonner un nouveau souffle, parce que bon, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de concours là dernièrement, donc on est un peu down, mais ça c'est le lot
ça
quotidien.
Ça veut dire qu'ils vont faire de la prospection en plus de vous?
Mais ils vont faire de la prospection, tout est bon pour que ça avance, mais c'est surtout pour reconnaître aussi leur travail, leur importance au sein de l'agence. C'est aussi, j'allais dire, de les remercier de leur persévérance et d'être avec nous depuis le début. Voilà, donc, et puis c'est même pour nous deux, pour Fred et pour moi, ça nous change un peu la vie. On n'est plus que deux à se regarder, on est plus. Voilà, c'est un peu différent, quoi.
Alors du coup, ça veut dire que vous allez prospecter sur un peu plus en province, à l'étranger?
Alors justement, on vient de sortir une nouvelle plaquette qui vient d'arriver il y a une semaine, où on a une association avec une agence belge qui s'appelle Assar. Mmh. Ce sont des Belges très gros, pas en taille, mais pas en forme de personnage, mais en taille d'agence, et avec qui on a bien matché lors d'un salon santé où on a été exposant comme eux, et on s'est rencontrés, on a discuté ensemble. Et puis en fait, c'était intéressant. Moi, je trouve que l'association ne fonctionne que quand il y a une valeur humaine. On peut être le meilleur du monde si on est.
Et c'est quoi leur différence, justement, avec vous?
Leur différence avec nous, c'est qu'ils
leur complémentarité.
Ils font des sujets beaucoup plus importants vu leur taille, mais on a des sujets qui se recouvrent parce qu'ils font de l'hospitalier plus que nous. Nous, on en fait un petit peu. Ils font ils ont fait par exemple le bâtiment de l'OTAN qui est énormissime avec SOM. Bon, c'est des immeubles de bureaux gigantesques, mais au-delà de ça, c'est aussi de pouvoir essayer de faire un bout de chemin ensemble sur des sujets complémentaires et de travailler avec des gens.
Bon, donc il y a plein d'actualités. Et puis la dernière en date, c'est il y a bientôt le fameux concert de rentrée.
Voilà, c'est ça. Avec mon ami Hamler et Dubois, nos amis Hamler et Dubois, depuis 2012, on fête tous les ans. La première fois, c'était les 20 ans de nos agences respectives. Et avec Philippe, comme on fait de la musique, lui et moi, chacun de notre côté, on s'était dit, on va se payer une salle et puis s'amuser vraiment.
Bon, là, vous payez une super grande salle, voilà, parce que c'est la maison de l'archi. Là, tout le monde se retrouve le vendredi 7.
Hein. On a un peu une larme à l'œil parce qu'on jouait à la Flèche d'Or, qui était vraiment une condition de concert absolument incroyable. Et la Maison de l'Archi nous propose de jouer dans leurs locaux, ce qui est magnifique, dans la chapelle, tout ça. Donc ça va, j'espère que ça sera très bien. J'espère que les gens vont venir nombreux. J'espère qu'ils vont écouter la musique. Et voilà, ça, c'est un peu comme tous les ans.
Donc c'est un rendez-vous que tous les maîtres d'ouvrage, architectes et autres attendent depuis longtemps.
Et amis,
bien sûr.
Parce que ce sont tous des amis qu'on invite.
Merci Bernard. Et puis je suis ravie d'avoir commencé cette rentrée avec toi.
C'est très gentil de m'avoir invité. Merci Myriam.
À bientôt.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.